on va revenir en arrière, si j'ose dire. Et en arrière, c'est le pélagianisme. Est-ce que je l'avais introduit la fois dernière ou pas du tout? On avait déjà avancé un peu. Hein. D'accord. Alors, je pense que j'en étais arrivé au contra Iulianum, non?
C'est Pélage.
Pélage, oui. Oui, je me souviens de vous avoir parlé de la Massa d'Amnata.
Oui.
Donc voilà, on était à peu près arrivé là, hein, c'est ça. Oui. Donc je vous avais dit qu'Augustin avait, révolutionné le christianisme latin, qui était jusqu'alors plutôt moral. Et qu'il y avait insufflé une dimension plus existentielle. Alors, il faut voir que, enfin, quand on parle de Saint Augustin, on se dit, ah ben, évidemment, Augustin, c'est Augustin, tuteur de l'Église, etc., etc. Donc, il a toujours raison. Mais il faut voir aussi que ses adversaires n'ont pas toujours tort, hein, à commencer par les Pélagiens. Parce que les Pélagiens, bon, je vous l'ai dit, ils combattaient en fait le fatalisme des manichéens. Dans l'Antiquité, d'une manière générale, on est sous le destin et tout s'accomplit finalement en dehors de notre liberté. On est les jouets du destin. Et la réaction de Pélage, qui est une réaction très chrétienne, c'est de se dire, nous sommes des êtres libres, et donc nous avons une volonté pour exprimer notre liberté, et c'est par l'exercice de cette liberté, de cette volonté, eh bien, que nous plaisons, que nous déplaisons à Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'était l'idée de Pélage, qui combattait ce fatalisme qui caractérise tellement bien l'Antiquité païenne, y compris le manichéisme. Alors, Augustin trouvait évidemment que, de ce point de vue-là, Augustin était un peu quiétiste, comme on dirait au XVIIe siècle, un peu, justement, marqué par ce fatalisme. Par exemple, dans les Confessions, il y a cette très belle phrase, au dixième livre, « Donnez-moi ce que vous commandez et commandez ce que vous voulez. » Autrement dit, commandez ce que vous voulez, mais donnez-moi les moyens de le faire. Alors, vous voyez, d'une certaine manière, c'est pas faux. Hein. Commandez ce que vous voulez, mais donnez-moi les moyens de le faire. Donc, on reste finalement très, très passif par rapport à la volonté de Dieu. Dieu veut ce qu'il veut, et puis, en plus, on lui demande les moyens de vouloir ce qu'il veut, d'accomplir ce qu'il veut. Donc, vous voyez, Augustin a tendance à insister sur la gratuité divine et en même temps sur l'irrésistibilité de la grâce. Voilà. Dieu veut quelque chose et ça s'accomplira à travers nous. Et nous, on se contente simplement d'en être les médiateurs, si vous voulez. Donc, voilà un peu l'idée. Eh bien, en fait, on n'est pas très loin de la prédestination, on va le voir. En même temps, voilà. Alors, dans l'histoire du pélagianisme, donc Augustin dit que la grâce, alors lui, à partir de son expérience donc existentielle, de sa conversion, etc., il fait observer que de fait, ce n'est pas tellement lui qui a voulu. Lui, il cherchait, il ne trouvait pas, et qu'à un moment ou à un autre, c'est la grâce qui a été première en lui et qui n'a eu plus qu'à suivre l'impulsion de la grâce pour découvrir la vérité, pour ensuite la mettre en pratique. Donc ça, c'est la réponse d'Augustin à Pélage. Et le pape Innocent Ier, qui est le contemporain d'Augustin, eh bien, prend position en faveur d'Augustin et ça aboutira à l'excommunication de Celestius, qui était le pélagien d'Afrique du Nord, et en remontant de l'excommunication du moine Pélage, donc un moine britannique. Alors, un certain nombre, on commence la deuxième phase de cette controverse, c'est que l'évêque de Éclane, Julien, donc en Italie, et 18 autres évêques vont refuser cette condamnation. Et du coup, le pape et l'exarque de Ravenne, où se trouve Éclane, vont consulter Augustin, qui va préciser sa pensée pour dissiper le malentendu. Donc on aura un petit ouvrage qui s'appelle « Contra duas epistolas Pelagianorum » et aussi donc contre deux lettres des Pélagiens, et un autre ouvrage qui s'appelle « De nuptiis et concupiscentia ». Parce que vous vous souvenez que pour Augustin, le péché originel se transmet par la sexualité, voilà, donc par le mariage. Donc, ce qui explique aussi le traducianisme, cette doctrine qui est en gros la doctrine matérialiste qui explique le péché originel chez les premiers pères, ce qui explique aussi que de manière générale, ils ont toujours été très réservés sur le mariage et plutôt enclins disons, à soutenir la virginité. Parce que d'une certaine manière, la virginité, ça casse le péché. Enfin, c'est comme les médicaments qui soignent tellement bien le malade qu'ils le tuent aussi. Hein, parce que là, évidemment, s'il n'y a plus de, s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de péché non plus, mais il n'y a plus personne. Donc, c'est. Bon, alors, voilà. Augustin va nier dans ses écrits, dans ses deux écrits, que sa doctrine du péché originel soit manichéenne, et il affirme que, quoique bonne, la sexualité a quand même été abîmée par le péché originel. Donc voilà sa position. Alors ensuite, par contre, il a du mal à expliciter sa conception non traducianiste du péché originel. C'est là qu'il va chercher à dire que le péché se propage par propagation, voilà. Et donc il y a un mot qui veut dire, voilà, c'est pas par la sexualité, mais c'est par quoi, on ne sait pas. Donc il faudra attendre saint Thomas pour savoir. Tout simplement par la nature viciée par l'archétype qu'est le premier Adam. Alors il va aussi chercher à articuler la liberté et la grâce. Et dans le Decorruptione Gratia, donc c'est Decorruptione Gratia, c'est, enfin on peut dire, c'est le Correptio, c'est, je sais pas moi, la correction en fait, hein, et la grâce. Il dira, la volonté humaine n'atteint pas la grâce par la liberté, mais plutôt la liberté par la grâce. Donc vous voyez, là encore, c'est toujours Dieu qui est premier. C'est toujours la grâce qui est première. La grâce va libérer notre liberté, si vous voulez. Elle va restaurer notre liberté. Elle va nous rendre plus libres. Donc se mettre sous la grâce, c'est devenir plus libre. Un bel exemple avec l'Immaculée Conception. On pourrait se dire, la Vierge Marie, voilà, elle n'est pas libre de péché. Mais en fait, elle est... Parce qu'elle n'est pas libre de péché, elle est infiniment plus libre que nous, en fait. Parce que péché, ce n'est pas un acte de liberté, c'est plutôt une entrave à notre liberté, qui est une liberté pour le bien. Tandis que là, c'est notre liberté, elle est entravée, puisqu'elle dévie vers le mal. Tandis que là, la grâce, précisément, son but, c'est de nous libérer notre liberté, d'une certaine manière. Et donc, vous voyez, ce n'est pas notre volonté qui va obtenir la grâce comme voudraient les Pélagiens, mais c'est plutôt la grâce qui va venir en nous et nous permettre d'être libres. Donc, vous voyez, pour Augustin, la liberté n'est pas une faculté arbitraire de choix, mais une détermination dans le bien. elle doit être libérée. Et c'est là que, plus tard, saint Thomas parlera de la liberté d'exercice et de la liberté donc liberté d'exercice, c'est celle de choix, celle qu'on expérimente un peu tous les jours, et la liberté d'indétermination, qui est cette liberté, justement, qui nous fait vouloir le bien, vous voyez, qui nous oriente vers le bien. Voilà, dans le De Libero Arbitrio, qui est un texte plus ancien du temps de ses controverses avec les platoniciens, il dit « Notre liberté consiste en ce que nous soyons soumis à la vérité. » On est d'autant plus libre qu'on est soumis à la vérité. Mais le problème, c'est que le péché originel nous empêche de voir la vérité ou de la vouloir, et du coup, il va y avoir la nécessité avant de la grâce pour que nous puissions faire cette expérience de voir et de vouloir la vérité. Donc, autrement dit, d'être libre. Donc, on est vraiment libre que lorsque Dieu nous recrée, par grâce. Alors, Augustin répondra à la réponse de Julien par un contra Julianum qui appellera une nouvelle réponse de Julien qui appellera une nouvelle réponse d'Augustin. Donc il va y avoir une correspondance entre les deux de manière toujours à préciser davantage la doctrine et d'écarter les malentendus. Alors, toujours est-il que la position d'Augustin inquiète les moines, comme je vous disais, parce que les moines, justement, s'étaient mis exprès dehors du monde, parce qu'ils trouvaient le monde un peu ramolli, et leur but, c'était justement de se botter le derrière pour parvenir à accumuler des mérites, voilà, pour plaire à Dieu, en somme. Et du coup, ils croient, ces moines, en particulier ceux de Marseille, hein, vous vous souvenez, l'un des plus anciens monastères d'Occident, ils croient que l'insistance d'Augustin sur la grâce ruine les efforts ascétiques, c'est-à-dire les mérites que notre volonté peut gagner. Alors, justement, saint Augustin y répond, et il va essayer de donner un peu de place à la critique en disant oui, même sous la grâce, même sous le régime de la grâce, notre humanité, notre nature humaine, finalement, est quand même reste rétive. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concupiscence. Vous savez que le Concile de Trente insistera là-dessus dans le débat avec les luthériens. Luthérien qui disait finalement le baptême ne change rien puisque on est toujours pécheur pourquoi on est toujours pécheur, parce qu'on fait l'expérience de la concupiscence et très souvent la concupiscence aboutit dans le péché, et que même l'expérience de la concupiscence, disait le luthérien, c'est déjà le péché. Et alors le Concile de Trente dira que non, c'est la déformation de notre nature qui nous pousse au péché, mais la grâce est suffisante pour nous empêcher de céder à la concupiscence. Alors, on compte sur une doigt d'une main probablement ceux qui n'ont jamais cédé à la concupiscence. Pense par exemple que Thérèse de l'Enfant Jésus n'aurait jamais fait de péché mortel. Pour les autres, la grâce est quand même souvent mise en échec par la concupiscence. Et à ce moment-là, comme dit Augustin, même si on est sous l'emprise de la grâce, on a besoin du blâme, on a besoin de la correction pour être ramené à son observation, à lui être fidèle, à lutter donc contre la concupiscence et contre le péché. Autrement dit, la grâce, si on veut, la grâce n'est pas toujours victorieuse en nous. Elle rencontre des obstacles. Alors, c'est là que Augustin va affiner sa réflexion. Il va dire qu'on a besoin de ce qu'il appelle l'adiutorium quo, c'est-à-dire l'aide par laquelle. Alors ça, c'est l'enseignement, ce sont les modèles, ce sont les blâmes, les corrections, etc. Donc tout ce que les règles monastiques, tout ça, tout ce que finalement les moines et les pélagiens mettaient en avant, mais que donc c'est nécessaire, mais ça n'est fructueux que s'il y a ce qu'il appelle l'adiutorium sine qua non, c'est-à-dire l'aide sans laquelle rien ne peut se produire. C'est-à-dire on pourra avoir toutes les règles monastiques qu'on veut, tous les cachots monastiques pour châtier les moines impénitents, tous les exemples extraordinaires de sainteté, etc. S'il n'y a pas la grâce, eh bien, ça ne produira pas de fruits. Ça restera encore extérieur, un peu comme la loi ancienne pour les juifs. Voyez. Donc, en fait, la position de saint Augustin, c'est rigoureusement la position de saint Paul vis-à-vis de la loi. Et finalement, la position des pélagiens, c'est une sorte d'adaptation chrétienne du judaïsme, des positions des judéo-chrétiens qui étaient souvent très... très, très moralisante, hein, justement. Alors que la position d'Augustin, c'est de dire, mais en fait, j'aurais beau me faire couper en morceaux, si je n'ai pas la grâce, cela ne sert de rien. Hein, la doctrine de saint Paul. Alors, les moines gaulois, pas seulement ceux de Marseille, s'inquiètent justement à cause de cette primauté absolue de la grâce, et donc de l'adiutorium sine qua non, du risque de prédestination. Parce qu'on voit bien que si la grâce est l'aide sans laquelle rien de bon ne peut se faire, comment se fait-il qu'il y ait du mauvais? Si la grâce est si puissante, comment ça se fait à ce moment-là qu'on constate que certains la mettent en échec? Donc comment se fait-il que la grâce qui est suffisante ne soit pas efficace, hein? C'est un grand débat entre la grâce suffisante et la grâce efficace. Alors notamment, ces moines se posent la question, et Prosper d'Aquitaine, qui est un disciple d'Augustin, l'en informe en 429, donc quasiment au moment où les Vandales déferlent sur l'Afrique du Nord. Donc Augustin avait certainement aussi beaucoup d'autres questions, d'autres problèmes à régler. Mais il va y répondre, parce que comme c'est vraiment une question fondamentale et qui en plus le touchait de très près, il va y répondre par deux opuscules, le De Predestinatione Sanctorum et le De Dono Perseverantiae, hein, donc de la prédestination des saints et du don de persévérance. Alors il dit que la prédestination n'est pas une décision préalable de Dieu excluant la liberté humaine. C'est pas Dieu qui... ça serait la position calviniste, hein, finalement, et que ce serait finalement, en gros, la position du paganisme antique. Mais que Dieu nous prédestine tous au bien, nous donne tous les moyens de parvenir au bien par la grâce, mais que certains saisissent la perche et d'autres pas. Donc l'idée d'Augustin, c'est que, je le cite, dans le De Dono Perseverantiae, ainsi nous voulons, mais Dieu fait que nous voulions et nous agissons, mais c'est également Dieu qui agit en nous cet agir. Donc Dieu est intérieur au bien que nous faisons, mais en revanche, il n'est pas intérieur au mal que nous faisons. Donc il n'y a pas de symétrie entre le bien et le mal. Sinon, on serait dans le manichéisme et on serait aussi dans la double prédestination calviniste. Donc, en fait, Dieu nous permet de faire le bien, mais il nous laisse faire le mal. Il le dit d'ailleurs dans un autre passage. Alors, par exemple, pour dire c'est passé d'ailleurs dans une préface des saints, diocèse de Paris, puis passé dans l'Église universelle. Quand Dieu couronne nos mérites, il couronne nos propres dons. Vous voyez, la réponse au Pélagien, c'est nous méritons, bien sûr, nous méritons par l'usage de notre liberté, par l'engagement de notre volonté, par les actes que nous posons. Effectivement, nous méritons, mais qu'est-ce qui nous permet de mériter? C'est la grâce qui préalablement nous a été donnée. Donc, en fait, finalement, quand Dieu couronne nos mérites, il couronne ses propres dons. Mais, en revanche, il n'y a pas une sorte d'antigrâce qui serait donnée à celui qui se perd. Celui qui se perd, c'est celui qui, alors mystérieusement, et ça sera toute la grande discussion du XVIIe siècle, celui dont, pour qui la grâce suffisante n'aura pas été une grâce efficace. Alors, on recule la question d'un cran. Hein, pourquoi, à ce moment-là, la grâce suffisante n'est pas une grâce efficace? Pourquoi, finalement, Dieu ne rend-il pas sa grâce irrésistible dans les âmes? Alors là, c'est le mystère de la liberté. Mais oui. Et pourtant, quand la liberté agit bien, c'est que Dieu agit en elle. Et si elle agit mal, c'est que Dieu n'agit plus en elle. Alors pourquoi Dieu ne s'insinue-t-il pas à ce point dans la liberté humaine, au point de faire en sorte que tous nos actes libres, finalement, soient des actes bons?
Il n'y aurait plus de liberté.